Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure est grave et on se retrouve cette semaine pour parler sommeil, rêve, labyrinthe et toupie avec pour sa première participation à l'émission mon meilleur ami de toujours, Julien. Bonjour Julien.
Bonjour Gaspard, bonjour à tous.
Ou devrais-je dire plutôt Guten Tag Julien, car en effet cette semaine exceptionnellement pour faire le point un peu, voilà, moi j'ai décidé de prendre quelques jours de vacances et nous enregistrons depuis les terres voisines de Germanie et précisément depuis Berlin, terre d'accueil de Julien d'ailleurs. Cette semaine, nous parlons cinéma, et pas de n'importe qui, mais du cinéaste britannique qui retourne les cerveaux du monde entier depuis près de 20 ans maintenant, avec des scénarios alambiqués qui fait frissonner Combini à chaque mot prononcé, et pas de n'importe quoi, mais de son film le plus analysé, théorisé, retourné, décortiqué. Aujourd'hui, on parle de Christopher Nolan et de son film Inception. Ton film préféré, Julien, si je ne dis pas de bêtises?
Bah, je l'ai vu 3 fois au cinéma. La première fois parce que je me suis endormi.
La deuxième fois parce que t'as rien
j'avais
compris.
Rien compris. Et la troisième fois, j'ai dû faire semblant de comprendre pour me satisfaire.
On peut l'appeler Matrix 2 sinon.
Ou Interstellar plus compliqué.
Christopher Nolan, il est né le 30 juillet 1970 à Londres et passionné de cinéma depuis l'enfance. Il débute dans les années 90 en réalisant plusieurs films amateurs durant ses études avant de se faire remarquer en 98 avec son premier long métrage autoproduit qui s'appelait Following. Il enchaîne alors avec Memento, première démonstration de ses histoires très labyrinthiques, énorme succès qui lui ouvre les portes d'Hollywood. Suivent alors Insomnia en 2002 et le début de la trilogie Batman en 2005 avec Batman Begins. Avant de tourner la suite, il réalise d'ailleurs le thriller The Prestidigitator, le Prestige en 2006, puis en 2008, il atteint son statut de réalisateur culte et collectionne dès lors les nominations et les récompenses avec The Dark Knight, I'm the Batman. Tu sais que c'est moi qui double en VF?
Mais c'est ce que je me suis dit, ouais. Moi, je fais Bane.
Ouais.
Mais en chinois.
On peut écouter Bane en chinois, s'il te plaît?
Oui, moi! Extrêmement raciste.
À partir de là, tout le monde connaît la suite. En 2010, bah, Inception. En 2012, The Dark Knight Rises. En 2014, Interstellar. Puis l'an passé, Dunkerque. Nolan, c'est, bah, quoi qu'on en dise, aujourd'hui probablement le cinéaste le plus connu et reconnu de sa génération, suscitant une attente considérable autour de ses projets qui connaissent à chaque fois des succès hors normes, des films vertigineux, méta, qui développent leur propre monde pour ensuite mieux déconstruire leur propre logique dans une dernière pirouette avant le générique de fin.
Et incompréhensible.
L'idée, c'est de te faire comprendre, croire que t'as compris le film, et puis une fois que t'as compris, boum. C'est-à-dire que c'est un cinéma qui te fait dire, est-ce que j'ai bien compris l'histoire, avant de te demander si c'est un bon film.
Oui, c'est ça. Et le simple fait de comprendre l'histoire ou de faire semblant de comprendre l'histoire te
procure un sentiment de
t'as
satisfaction,
compris le film, ouais. Donc t'as aimé le film.
Il est sorti le 21 juillet 2010 et il a accumulé 5 millions de spectateurs en France et un succès énorme, plus de 800 millions de dollars de recettes à travers le monde, 8 nominations aux Oscars pour 4 remportées. Mais on en parle, Inception, de quoi ça parle, Julien?
Alors,
on va prendre un tableau Velleda d'abord.
Premièrement, il y a Leonardo DiCaprio. Lui et tout le monde, en fait, peuvent rentrer dans les rêves des gens. Et sauf que t'as un monsieur...
Pas n'importe quel rêve, c'est les rêves où les gens sont habillés en tout cas.
Oui, bien sûr, les rêves des gens qui sont des rêves tout à fait boring et où on se fait chier, parce que moi, sincèrement, c'est pas mes rêves.
Non.
Mais...
Ce serait marrant que le film parte en cacahuète. C'est déjà au bout de 20 minutes, ils sont déjà dans un pays rose avec des lamas. Après, oui, il est en slip. Allez!
Il est en train de faire l'amour avec sa mère. Moi, c'est pour mes rêves, mais pas pour tout le monde.
D'ailleurs, tu étais le premier réalisateur sur Inception, puis Warner t'a dit on va l'arrêter tout de suite, on va le refiler à Chris, il s'en sortira mieux que toi.
Je demandais à DiCaprio de coucher avec ma mère dans toutes les scènes. Donc, lui et une équipe de d'autres personnes qui peuvent rentrer dans les rêves vont finalement avoir pour mission de implanter une idée dans un rêve. Et,
c'est ça, l'Inception.
Et voilà, s'ensuit des scènes incompréhensibles qui
plusieurs
vont mener
niveaux,
à...
Plusieurs couches, hein.
Qui vont mener
comme les oignons. Est-ce que ce film n'est pas un peu comme un oignon?
C'est un oignon parce que, pour plusieurs raisons, c'est difficile à décortiquer et à la fin, on pleure.
Sur une si belle métaphore, je propose qu'on s'attaque tout de suite au film. On préfère aussi vous dire tout de suite qu'on n'a pas compris la fin, donc ne pensez pas qu'à la fin, on va vous donner l'interprétation.
Ce que j'ai compris, c'est qu'il fait tourner une toupie. Enfin, je sais pas ce que c'est, cette toupie. Et voilà, et c'est la scène de fin qui nous fait réfléchir. Parce
chut,
que...
chut, chut, chut. Le film film s'ouvre mystérieusement sur Leonardo DiCaprio qui se réveille sur une plage, apparemment devant une maison de type japonaise. Il est réveillé par un garde qui l'amène voir son maître.
Qui lui est même japonais, donc on commence à un peu avoir des informations sur le potentiel lieu.
DiCaprio est amené, il a l'air un peu défoncé, face à un type très très vieux, et il commence à avoir une discussion, on voit une toupie, on est en mode on ne comprend rien, puis... Petit flashback, on se retrouve avec à nouveau DiCaprio et son ami Arthur. Ils sont en train de parler à un vieux japonais qui s'appelle Saito.
Ils essayent de lui expliquer qu'il y a des gens qui veulent récupérer des informations et qui sont là pour le protéger dans le cas où les gens veulent récupérer des informations. Vous pouvez voir que moi-même, je ne comprends pas vraiment ce qu'ils veulent.
Non, mais moi, en fait, ils sont en train de lui dire que c'est possible de rentrer dans les rêves pour voler les infos et qu'eux sont là pour l'aider.
Oui, c'est ça.
Sauf que, il se fait pas avoir le Saito. Il a bien compris qu'il est en train de rêver actuellement et qu'en fait, ils sont en train de lui voler une info.
Sauf que, il a donné les informations qu'il fallait en regardant le coffre-fort, parce que le DiCaprio, il est très fort et il a vu qu'il regardait le coffre-fort.
Ça va très très vite. Et donc cette tentative de vol est un échec, puisqu'en fait le sujet se rend compte qu'il est en train de rêver, Saito se réveille, enfin ça va très très vite, on est en train de nous initier à ce que c'est que le vol dans les rêves. On voit que DiCaprio est censé être le meilleur avec son coéquipier Arthur, sauf que là c'est un échec effectivement.
Petite clarification, c'est un échec grâce ou à cause de celle qui va casser les couilles de tout le monde pendant tout le film, Marion Cotillard.
Ah, on reviendra sur elle juste après.
Bien sûr.
Enfin, on reviendra sur elle. On parlera d'elle à nouveau, quoi.
Un moment, je pense qu'elle va revenir.
Sauf que ça a été un échec, mais pas tellement. Puisque Saito, certes, il a vu que DiCaprio était un peu nul, mais il va quand même lui proposer un petit marché.
Vous attendez quoi de nous ?
L'inception. Est-ce possible ?
Bien sûr que non.
Si on peut voler une idée dans un esprit humain, pourquoi on ne pourrait pas en semer une aussi ?
Bien, imaginons que je sème une idée dans votre crâne. Si je vous dis, ne pensez pas à des éléphants, à quoi vous pensez ?
Des éléphants.
Oui, mais ce n'est pas votre idée parce que vous savez qu'elle vient de moi. Le cerveau du sujet peut toujours retrouver la source de l'idée. La vraie inspiration est impossible à falsifier. C'est inexact.
C'est dans vos cordes.
Est-ce que vous me donnez le choix ?
Vous avez le choix, Asuka.
Et je fais le choix de partir.
Ça vous dirait de rentrer chez vous ? En Amérique ? Auprès de vos enfants.
Vous pouvez pas m'arranger ça. Y a personne qui peut.
C'est comme l'inception.
Cobb, allez bien.
Elle est complexe, cette idée ?
Des plus simples.
Il n'y a aucune idée simple quand il s'agit d'aller la semer dans une cervelle.
Mon rival principal est un vieil homme en mauvaise santé. Son unique fils héritera bientôt de la direction de la multinationale. Et j'aurais besoin qu'il décide de démanteler l'empire de son père.
Un petit marché très intéressant, puisque qu'est-ce qu'il y a à la clé pour DiCaprio ?
La possibilité de revoir sa famille, revenir chez lui.
Aux États-Unis, US.
Aux US.
Il se dit que bah voilà, c'est peut-être enfin le coup qui me permettra de revenir.
Alors moi, ce que j'ai adoré dans cette discussion, c'est qu'ils sont dans un hélicoptère pendant, je pense, une bonne heure, mais ils décident de faire le deal sur le tarmac. Donc oui. Ça, c'est très pratique.
Et on voit pas
que...
le reste du voyage en hélicoptère, où ils ont rien à se dire, en fait.
Parce que je pense que le reste du voyage devait être très, très chiant.
DiCaprio réatterrit et se dit, bon, bah, dès lors, il faut que je monte une équipe de choc pour enfin pratiquer cette inception, cette manière où on va aller enfin implanter une idée plutôt qu'en voler une. D'abord, il y a qui avec lui, DiCaprio ?
Bah son acolyte, le bad boy, le Joseph Gordon-Levitt, le fantasme de toutes
Arthur,
les femmes.
Arthur, qui est quand même le mec le plus queuse du monde dans
exactement.
Le film. Et qui joue des épaules, qui fait la petite moue comme ça pour montrer qu'il est sérieux.
Il est très sérieux et il fait très très peur.
Arthur qui a quand même un rôle très défini dans ce film, qui va être en fait celui qui va nous expliquer le film constamment. C'est-à-dire que c'est lui qui va nous donner les règles, qui va nous dire que, bah en fait, on a le droit de rêver à ce niveau-là, et puis on a le droit de faire ça dans un rêve, parce qu'après on s'en sort de telle manière. C'est un peu celui qui va pas bien réussir son rôle, puisque, enfin, toi et moi, on n'a rien compris au film.
J'ai juste un truc, c'est quand même, il faut imaginer que c'est un monde où c'est connu qu'on peut rentrer dans les rêves, donc tout le monde connaît cette technologie, mais ils sont constamment en train de se l'expliquer entre eux, donc constamment en train de...
En fait, il a un peu le rôle de Clippy, tu vois, sur Word. Non, mais c'est un peu ça. C'est Arthur, c'est Clippy... Sur Microsoft.
Mais vachement sérieux, vachement beau gosse, ouais. Et vachement stock.
Mais je
veux
dire, tu sais que Microsoft pensait mettre Joseph Gordon-Levitt
au départ,
sur
mais
Word,
ça rentrait pas, il est tellement stock que ça rentrait pas sur l'ordinateur.
Ils vont également trouver Eames, enfin plutôt Bane. Donc je te propose d'ailleurs que tu nous refasses une imitation de Bane.
Oui, mais je peux faire le turc cette fois-ci.
Eames qui est joué par Tom Hardy et qui va en fait lui être un faussaire spécialisé dans le vol d'identité. Et bon, pas un hasard si on parle de Inception ce soir. Je vous disais que Julien était très bel homme. Et Julien est surtout connu en Allemagne pour être le sosie officiel. On dit d'ailleurs sosie ici.
Oui, ouais, tout à fait.
De Tom Hardy.
Exactement. Bah, enfin, c'est tout récent. Hein. Je viens juste de gagner la compétition. On était deux. Voilà, donc j'ai gagné.
Ouais. Maintenant, d'ailleurs, on te demande souvent dans la rue si c'est toi.
Bah, souvent, non, parce que ça fait que depuis hier. Mais.
Ah oui, mais on t'a demandé souvent aujourd'hui.
Aujourd'hui, non. Mais pas c'est encore. Parce que je suis resté chez moi, donc j'ai pas fait grand chose. Mais je pense que demain, peut-être, si
tu
je
veux.
Sors...
Attends, Ryan. Tom Hardy.
Oui.
Hein. Putain, dingue. Il ressemble à mon pote Julien. Ils vont également recruter Youssouf. Alors Youssouf, c'est le responsable des sédatifs.
Extrêmement raciste, parce que c'est le seul arabe du film et qui est le dealer de tout le monde.
Non, surtout que c'est censé être le spécialiste des sédatifs, donc celui qui va les plonger dans un coma profond. Mais alors, si tu veux, il arrive, ça fait 25 minutes de film, t'as DiCaprio qui est en train de lui dire « On aimerait faire un rêve dans un rêve, dans un rêve. » Et il est en mode genre « Wow, mais vous êtes des malades, c'est pas possible !» Alors que j'ai l'impression que c'est quand même faisable depuis très longtemps de faire un rêve dans un rêve. Et là, le mec lui propose juste le niveau au-dessus, il en peut plus, quoi, Youssouf.
Alors que dans sa cave, t'as 20 personnes qui sont sous sédatifs en train de rêver. Mais 3 rêves, non, pour Youssouf, c'est trop...
Et surtout, faut quand même expliquer pour ceux qui auraient pas vu le film. Alors, en fait, rêver, c'est pas genre juste s'endormir dans un lit côte à côte en se tenant la main. Non, non, c'est comme en fait se brancher à la même prise d'héro, comme une Nintendo 64. Donc, ils sont tous avec le même câble qui leur rentre dans le bras. Ils ont pas l'air très malins. Et c'est Youssouf qui va être le maître de ça aujourd'hui. Il recrute également DiCaprio à Paris. Il va à Paris dans une école d'architecture. Il va recruter une jeune Ariane. Attention, symbole. Une talentueuse étudiante dont le travail sera de concevoir les différents niveaux de rêve si elle passe quelques tests.
Elle a la chance, cette petite Ariane, de se balader dans les rues de Paris avec le beau Leonardo DiCaprio.
Très bel entretien d'embauche.
Oui, c'est un bel entretien d'embauche. Ils sont sur une terrasse de café et là, mindfuck. Il lui dit, calme-toi, ça va bien se passer. Et il fait tout exploser autour d'elle.
Il commence à lui dire qu'en fait, ils sont dans un rêve.
Ils sont dans un rêve, tout à fait.
On est toi et moi dans un lit en ce moment. On est en train de rêver, blottis l'un contre l'autre.
Clairement, il l'a drogué et il l'a endormi. Donc
il lui aurait demandé son consentement pour s'endormir à côté d'elle, avec Youssouf qui est à côté. En fait, c'est pas possible, c'est pas possible.
Et donc, elle réalise qu'elle est dans un rêve. Elle commence à s'inquiéter, mais DiCaprio est là pour la rassurer en faisant exploser tout ce qui se trouve autour d'elle.
Et il commence à lui dire qu'en fait, pas très grave, parce qu'ils vont mourir, cette terrasse
de
café.
Oui, tout à fait.
Voilà, super.
Ce que t'as envie d'entendre.
Oui,
hein,
bah, ça me fait très plaisir de
te
le dire. Ouais.
Tu te retrouves avec un inconnu, il te dit qu'il t'a drogué et que tu vas mourir à la fin. T'es ravi.
Mais c'est une bonne nouvelle, puisqu'il y a Joseph Gordon-Levitt à ton réveil qui t'explique qu'en fait, quand tu meurs dans un rêve, tu ne meurs pas, tu te réveilles. Et en fait, elle commence à comprendre, Ariane, toutes les possibilités qu'offre ce boulot. Donc en fait, il retourne à nouveau rêver dans Paris. Et là, en fait, elle va faire un truc de malade.
C'est devenu la boss de des rêves. Elle peut te détruire une ville, elle te la reconstruit en un battement de cils. Donc en l'espace de je sais pas 10 minutes de conversation avec Arthur, elle recrée Paris, Haussmann n'a qu'à se recoucher.
Il lui fait une réflexion en mode genre wow, en fait il faut pas recréer à partir de tes souvenirs, parce qu'en fait d'un coup ton inconscient va venir forcément te travailler. Il lui dit ça alors que, si tu veux, le mec l'emmène en face de la Tour Eiffel, genre c'est pas genre comme s'il l'avait inventé lui. Et du coup, ils vont se balader sur le pont de Bir Hakeim que va créer la jeune Ariane, et va débarquer Marion Cotillard.
Bon, elle va juste poignarder Ariane, hein, c'est...
Qui a compris 10 secondes avant que mourir dans un rêve, c'est pas très grave, mais elle se met quand même à hurler comme un pochon qu'on est en train d'égorger, quoi.
Exactement. Et au réveil, on apprend que Marion Cotillard est en fait la femme
de DiCaprio. Il est quand même rongé par le souvenir de sa femme. Pourquoi ? Parce qu'on comprend qu'il a perdu sa femme il y a plusieurs années, et que c'est cette culpabilité qui prend forme via son subconscient. Enfin, j'essaie de comprendre, hein, et qui revient en fait le hanter de manière incontrôlable dans ses rêves, et qui malheureusement influe. On fait appel à DiCaprio pour être le meilleur voleur de rêves. Genre, s'il y a un voleur de rêves qui est travaillé par son subconscient, c'est bien lui. Donc, moi, je serais Saito dès le début. Je dis oui, alors on le fait avec toi, mais toi, tu vas pas dans tes rêves, quoi, en fait.
Bah oui, clairement, parce que, enfin, si c'est pour que Cotillard vienne tout ruiner,
tout ruiner à chaque fois,
genre,
ouais.
Voilà, c'est ça.
Ariane va accepter ce boulot, et donc DiCaprio et Joseph Gordon-Levitt vont lui expliquer toutes les règles. Alors, comment on construit un rêve, et en fait, ils vont lui attribuer le rôle d'architecte. Donc, c'est elle qui va établir les rêves et les designer, si tu veux. Ils vont lui expliquer comment on s'en sort. Alors, soit on meurt dans un rêve, soit comment on peut s'en sortir aussi dans un rêve.
Il y a le tilt, ou le switch,
kick,
ou le kick.
La décharge.
Ouais, la décharge.
Et alors ça, c'est un principe qui va pas être très bien respecté pendant ce film.
Non,
en fait.
faut clairement le signaler que le kick n'est clairement pas respecté tout au long du film.
Qu'est-ce que c'est un kick, surtout ?
C'est quand on se fait... quand on tombe ou quand on se fait basculer, en fait, et que l'oreille interne est...
S'affole
ou est activée.
On comprend qu'on peut se réveiller d'un rêve en étant poussé. On lui explique aussi que, pour être sûr de ne pas être dans un rêve, il faut se créer un petit totem qui lui permettra de se dire « Non, là, je suis bien dans la réalité, je ne suis plus dans un rêve. » DiCaprio a sa fameuse toupie, et Ariane Diane va décider de se construire son propre totem. Mais alors, j'ai toujours pas compris ce que c'était. Parce qu'en fait, elle se construit une sorte de pièce d'échec qu'elle fait tomber.
Non, mais en fait, c'est une pièce d'échec que quand tu pousses, elle tombe.
Oui, mais alors. c'est très... Parce qu'à la limite, je comprends. En fait, DiCaprio nous explique que sa toupie, en fait, si elle ne s'arrête pas de tourner, ça veut dire qu'en fait, il est dans un rêve. Si elle s'arrête de tourner, en fait, il est dans la réalité.
Faut savoir que celui qui lui a indiqué qu'il fallait qu'elle ait cette petite pièce personnelle, c'est Arthur qui lui a un dé rouge et qui lui met juste bien devant le visage. Donc quand elle veut le récupérer, il fait non, tu touches pas par contre. Ouais, il lui tape sur la main.
Et donc toute l'équipe se prépare alors comme une sorte de film de casse. Alors on a la scène où ils sont dans une sorte d'entrepôt à Paris. Alors il y a personne qui l'utilise cet entrepôt. Et en fait c'est un peu Ocean's Eleven quoi. Ils sont avec les plans, ils sont en train de dire bon alors on va aller inceptionner l'idée de telle manière. Ils vont prendre le vol Sydney-Los Angeles qui est un des vols les plus longs du monde apparemment.
Ça aurait été drôle qu'ils prennent un avion un peu nul, genre tu sais ils font Saint-Étienne-Marseille.
Ou un EasyJet où ils peuvent pas prendre de bagages tu sais. Leur machine reste bloquée à la...
Ils croisent les doigts pour essayer d'être à côté.
Et bien sûr, il y en a un qui a pas imprimé son billet, donc ils sont coincés au desk.
Donc en fait, ils se disent que pendant un vol d'avion, ils vont pouvoir s'endormir à côté de Monsieur Fisher et enfin lui implanter cette idée qu'il doit chambouler l'empire financier et industriel que lui laisse son père.
Alors là, par contre, c'est là où je me suis posé une question. Donc ils réunissent cette équipe, le top du top, ça doit coûter un bras. Ils sont tous en première classe pour le vol le plus long, donc ça doit coûter un autre bras. Saito, il avait pas mieux juste à aller parler à Fisher et lui dire « Mec, je te donne du fric et oui, tu me vends ton empire, tu vois. » Le film serait bien plus nul, mais au moins...
Donc c'est Ariane qui va construire les différents niveaux de rêve, mais il ne faut pas qu'elle en parle à tout le monde parce que sinon chacun en fait va venir implanter son subconscient là-dedans et peut tout ruiner. Enfin je crois que c'est ça. J'ai l'impression que c'est ça. Et on nous initie à un autre principe qui est celui de la temporalité un peu différente puisqu'on comprend que quand on fait un rêve dans un rêve, en fait déjà quand on rêve, par exemple là si on s'endort.
Tu veux peut-être de l'aide, non?
Mais j'aimerais bien un tableau où on mettra un schéma avec le podcast.
Exactement.
Mais en fait, si on fait dans la vraie vie, ça dure une heure, on dort une heure. En fait, notre rêve, il dure plusieurs heures. Et pareil, je suis pas sûr d'avoir compris. Et en fait, si on fait un rêve dans le rêve, à chaque fois, le temps est étendu.
Ouais, c'est ça. Le temps se rallonge dans le rêve dans lequel t'es. Mais c'est encore un principe qui va pas du tout être respecté dans le film.
Non. Mais juste pour te dire qu'en fait, ils peuvent tricher. C'est-à-dire qu'ils peuvent 5 minutes dans un niveau, ça leur accorde plusieurs heures dans le niveau
du dessous.
Quoi.
Mais ça, c'est la discussion que j'avais eue avec notre pote Raph.
Du coup, on peut peut-être passer à la suite. Parce que du coup, le premier rêve va bientôt commencer.
Tu pouvais pas pisser avant de pioncer.
Désolé.
Alors Youssouf, mais trop de champagne gratos avant le décollage?
Qu'est-ce qu'on se marre.
Au moins, on sait qu'il va chercher un taxi vu la météo.
Hé, du con! Ça va pas la tête, non?
Pars-toi à pied.
Point de la troisième et deux marquettes.
Vous faites quoi là?
Ah, désolé, je croyais qu'il était libre.
Eh bien non.
On peut peut-être partager.
Non, peut-être pas. Vous pourriez vous arrêter et faire descendre.
Génial. Il y a $500 là-dedans. Et le portefeuille vaut plus que ça. Alors vous pouvez au moins m'amener à destination.
J'ai bien peur que vous ne fassiez...
Allez, monte!
Bien quand même que tu le rappelles.
Et soudain, un train débarque et détruit tout alors qu'ils sont dans le premier niveau de rêve et on comprend que DiCaprio a déjà son subconscient qui travaille, son subconscient qui va venir intervenir dans le premier niveau de rêve puisque ce train n'était pas prévu. Alors elle est complètement con, Ariane. J'ai mis des licornes et l'État islamique dans le niveau 2. Attention, hein.
Et donc, ce train qui a failli les écraser, ouais. Si tu meurs dans ton rêve, est-ce que c'est comme dans les jeux vidéo? Est-ce que tu peux revenir où t'étais? Non, je pense pas, t'es niqué.
Ah, c'est une bonne question.
Faudrait demander à Christopher, faudrait l'appeler.
Et il y a un deuxième pépin qui arrive, c'est qu'en fait, on comprend que Fisher, lui, a été entraîné également à ne pas subir d'inception, en tout cas d'intervention dans son subconscient.
Ouais.
Et comment ça se manifeste, en fait?
C'est avec des mecs, avec des mitraillettes, et des lance-grenades, vraiment, enfin, l'artillerie lourde. Mm. Et sauf que personne s'y attendait, et notre bon vieux Saito Leto se prend,
se prend une balle.
Ouais, une balle dans le
coffre. Dans le buffet. Ils se réfugient tous dans une planque et en fait ils se disent bon bah c'est pas grave, Saito va mourir et il va revenir dans l'avion.
Sachant qu'il faut savoir que Saito ne sert strictement à rien, hein. Il apporte rien dans l'équipe.
Non mais surtout depuis quand, tu sais, quand tu commandes un truc, tu vas avec ton intervenant genre.
Ouais, bien sûr.
Tu vas acheter un truc chez le boucher, tu te dis pas c'est moi qui vais couper la viande, tu vois.
Ouais, non, c'est sûr. Bah, Saito, il est un peu relou quoi.
Bah, tellement que en fait on lui explique que bah en fait non, pas cette fois. Quand tu meurs dans ce niveau, on est tellement sous sédatif pour être endormi.
Non, non, mais c'est que Youssouf, il a la bonne, en fait. C'est la meilleure du quartier, donc c'est t'en ça. Fais pas que tu vas pas te réveiller comme ça avec Youssouf.
Et donc, en fait, s'ils sont trop endormis, s'ils meurent dans ce rêve, ils finissent dans les limbes, dans d'espace indéfini.
Disons que c'est la dernière couche des rêves, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'une minute dans la vraie vie, c'est 10 ans là-bas, donc tu te fais bien chier à un moment. Non, mais
moi, il y a un autre truc que je comprends pas, c'est qu'en gros, ils sont en train de dire à chaque fois, genre, putain, c'est hyper grave et tout. C'est horrible, ça dure des décennies, mais au pire, tu vois, c'est comme le coup de la toupie. Tu t'en fous, t'attends. Au pire, quel est le risque que tu te trompes, que tu sois dans la réalité ou non?
Non, parce que à la fin, c'est ce qu'ils disent, c'est que tu te fais tellement chier là-bas que t'en perds la notion de réalité, de temps réel. Et
oui, mais au pire, tu te réveilles 70 ans après, t'as re-20 ans sur Terre, quoi.
Ouais, mais je pense que tu finis à Sainte-Anne. Enfin, t'as vécu deux vies.
Et alors, il y a un problème?
Non, non, je sais. Enfin,
je te rappelle notre sponsor.
C'est peut-être le moment de lancer notre jingle pour le sponsor, car c'est le premier podcast sponsorisé.
Par Sainte-Anne.
Par Sainte-Anne. Merci Sainte-Anne pour l'argent.
Ils ont dès lors kidnappé Fisher, ils l'ont amené dans une salle à côté, ils font croire qu'ils sont en train de torturer son oncle, et ce dernier avoue qu'il existe un second testament laissé par son père, quoi.
Parce qu'il faut quand même expliquer qu'en fait, dans les rêves, pourquoi est-ce qu'on a pris Tom Hardy? C'est que c'est la meilleure, il est très très bon pour prendre la personnalité d'autres personnes.
Et donc il fait croire qu'il est l'oncle.
Il fait croire qu'il est l'oncle, parce que l'oncle n'est pas dans le rêve, il était pas dans l'avion, donc il peut pas être dans le rêve, c'est Tom Hardy, voilà.
C'est ça. Et donc en fait, ils lui font croire, ils commencent à lui implanter l'idée que son père avait dit « il faut que tu te débarrasses de ton empire ». Donc on en est à la première étape de l'Inception. On va descendre dans un autre niveau de rêve, on va faire un rêve dans le rêve pour encore mieux implanter l'idée, enfin si j'ai bien compris. Youssouf, dès lors, en fait, va tous les mettre dans une camionnette, ils iront très vite et ils iront se jeter d'un pont. En se jetant du pont, ça va faire le fameux kick, la fameuse décharge qui les réveillera du rêve dans lequel ils sont plongés.
Faut savoir que quand ils seront plongés dans le rêve, ça sera Youssouf en voiture qui conduit et qui est poursuivi par des gens en mitraillette qui lui tirent dessus. Donc c'est pas une conduite
agréable.
C'est
là où il y a un vrai problème de kick, c'est-à-dire qu'en fait se jeter d'un pont c'est un kick, mais faire un tonneau sur l'autoroute c'en est pas un.
Non non, bien sûr. Non, ça c'est sûr, mais c'est
ça,
quand
ça retourne juste le décor en fait dans les
exactement. Il est super ton script Nolan, mais il y a des moments ça veut rien dire ce que tu écris.
Là j'entends rien.
Et donc dans la camionnette, il décide aussi quand même de faire ce plan qui s'appelle Mr. James et qui est en fait que notre ami Leonardo va avouer à Fisher qu'il est dans un rêve.
Donc, je comprends rien.
Donc là,
c'est horrible.
On va se mettre dans un nouveau rêve.
Oui.
Mais sauf que ce plan est très difficile à faire car il l'avait déjà essayé sur Saito et ça n'avait pas marché.
En fait, je m'appelle Monsieur Charles, vous vous souvenez de moi, bien sûr. Je suis votre chargé de sécurité ici.
Employé par l'hôtel?
Pas du tout. Je suis spécialiste d'un genre de sécurité tout à fait particulier. Je protège les subconscients.
Autrement dit, les rêves. Vous parlez de l'extraction.
Monsieur Fisher, c'est pour vous protéger que je suis ici au cas où on tenterait d'accéder à votre esprit à travers vos rêves. Ici, vous êtes en danger. Ils sont loin après vous.
Youssouf ne sait absolument pas conduire et arrête pas de retourner la voiture, ce qui en fait bouger tout dans le rêve suivant, ce qui permet de faire tomber Fisher dans le panneau. On lui dit, tu es bien dans un rêve, regarde, le décor n'arrête pas de bouger, puisqu'en fait dans le rêve d'avant, qui est censé être la réalité, tout va très très mal. Fisher, le couillon, tombe dans le panneau et accepte d'aller avec DiCaprio et toute sa clique dans le rêve suivant.
Parce
ça.
Que, tout à fait, il pense que DiCaprio est là pour l'aider, et donc il accepte bêtement de
d'aller dans le rêve suivant pour enfin aller trouver la fameuse info que tout le monde essaie d'avoir, qui nous le savons en fait, n'est pas une info vraiment, mais qu'on essaie de lui implanter.
Exactement.
Si j'ai bien compris. Avant les ravisseurs, et du coup il ira, mais cette fois-ci tout le monde va y aller sans Arthur. Arthur va rester dans ce rêve-ci, le deuxième rêve, on est dans la deuxième couche de l'oignon. Arthur va rester pour les réveiller en fait.
Et pour le plaisir des spectateurs qui n'auront plus à voir Joseph Gordon. Ron Lewis.
Donc là, on a plusieurs histoires en parallèle. On a d'abord les mecs dans l'avion.
Parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est des mecs qui prennent l'avion, en fait, ce film.
Pour l'instant, ils sont toujours dans l'avion. Ils sont dans l'avion, dans une camionnette, dans un
c'est
hôtel.
Ça. On arrive au troisième niveau. Et là, ils se retrouvent tous en pleine montagne, à plusieurs mètres d'un bunker, gardé par de nombreux gardes. Toute l'équipe, à manière de James Bond, vont lui péter la gueule aux gardes. Ils arrivent enfin à s'infiltrer, mais enfin là, patatras, Saito succombe à ses blessures, et encore pire, Fisher se fait abattre par Marion Cotillard.
Elle est insupportable. Elle casse les couilles de tout le monde, un par un. À chaque niveau de rêve, t'as Cotillard qui vient de casser les couilles, vraiment.
Surtout qu'en plus, c'est déjà assez compliqué comme ça.
Non, clairement, Cotillard, j'étais pas un fan avant, je l'aime encore moins après.
Oh, tu es méchant, je trouve.
Oui, j'ai bien compris que toi, tu étais un fan.
Mais du coup, en fait, si Saito est mort et Fisher est mort, direction, en fait, les limbes. La mission est un échec, sauf que...
Heureusement que on réalise, en fait, avec un défibrillateur, tu peux guérir d'une balle. C'est donc ça. Ça, c'est... Pour tous ceux qui se font tirer dessus...
Ouais, n'oubliez pas d'avoir un défibrillateur avec vous.
Ouais, je pense que ça vous aidera, hein, ça.
Non, mais du coup, Ariane commence à comprendre que, non, c'est pas grave, on peut, toi et moi, DiCaprio... aller dans les limbes, sauver Fisher avec un nouveau kick. Le montage alterné nous fait comprendre alors que tout va se jouer à la seconde près pour que chacun puisse se réveiller à temps et remonter dans le niveau de rêve d'avant pour enfin tous se réveiller dans l'avion et manger des cacahuètes.
Sachant que là, Youssouf, lui, il commence un peu à galérer, il se prend des balles de partout et il fait des gros, gros tonneaux.
Ça, il faut quand même expliquer, il fait des gros, gros tonneaux. Alors, il fait toute une course-poursuite sur à peu près, 500 mètres. Il n'arrête pas de faire des roulés-boulés. Nous, on voit dans le niveau où est Arthur, donc Joseph Gordon-Levitt, qui est le deuxième niveau,
dans l'hôtel,
que le décor retourne. Là, faut quand même le dire, ça a de la gueule. On est content d'aller payer 12€ à place pour aller voir Inception et voir un décor se retourner parce que ça a quand même vachement de la gueule, quoi, comme scène.
Non, mais on est moqueur, mais le film reste quand même très, très stylé et c'est Nolan, quoi. Donc, on en a pour notre
J'ai
gueule.
J'ai rien compris, mais franchement, c'est stylé, frère.
C'est trop beau, les images, quand ça se retourne.
Mais du coup, en fait, l'accident va durer, sur 500 mètres, on va dire que ça va durer 30 secondes. Mmh. Sauf que, logiquement, moi, j'ai compris le principe de temps étendu. Pour le deuxième niveau, ça devrait durer à peu près 15 minutes.
Exactement.
Sauf que ça va durer autant de secondes.
Ouais.
Donc en fait, t'as envie de dire non, pendant au moins 20 minutes, t'arrêtes pas d'avoir le couloir qui se retourne normalement.
Et c'est ça. Et deuxième incohérence sur cette scène, c'est que quand tu te fais un tonneau en voiture, je pense que ton oreille interne, elle en prend un sacré coup.
Réveille,
donc
fait.
Tu te réveilles, tu te prends un kick. Non.
DiCaprio et Ariane se retrouvent alors dans les limbes qui ressemblent en fait à une cité déserte avec d'immenses buildings que Cobb et sa femme, enfin du coup DiCaprio et sa femme avaient construit lorsqu'ils étaient piégés dans les limbes des années avant.
Et qu'ils ont en fait construit leur propre monde avec des souvenirs, des maisons qui leur ont appartenu dans leur
sans
vie.
Sans déconner, là on est si tu veux, on est dans les limbes, on est dans le quatrième niveau du subconscient.
Mmh.
Les mecs ils construisent des buildings quoi.
Ouais.
Moi déjà mon premier niveau de subconscient il est hyper chelou.
Oui, peut-être pour toi. Moi, j'ai des rêves tout à fait sains. Mais.
Je te vois trop dans tes rêves à faire des trucs compta.
Ouh là là.
J'espère que cette nuit va être longue. J'ai pas que ça à faire, moi.
Et il retrouve Cotillard dans un appartement où elle garde en fait en otage Fisher. Cotillard propose à DiCaprio de rester avec elle toute sa vie ici, en fait, dans ce niveau où ils pourront enfin être ensemble. Mais lui refuse car il n'arrête pas de lui dire non, c'est pas la vraie réalité ici, on doit pas être ensemble. Mais alors là,
gros twist.
DiCaprio fait une révélation à Ariane et en fait il lui explique qu'il avait déjà fait une Inception il y a plusieurs années et que ça a mal tourné.
C'est que l'idée qui t'a poussé à douter de ta réalité est venue de moi.
C'est toi qui as semé cette idée dans mon esprit.
De quoi est-ce qu'elle parle ?
Si je sais que l'inception est possible, c'est parce que c'est sur elle que je l'ai testée. J'ai fait ça à ma propre femme.
Pourquoi ?
Parce qu'on était perdus ici. Je savais qu'il fallait qu'on s'échappe, mais elle refusait de l'accepter. Elle avait mis quelque chose sous clé. D'enfoui. Cette vérité qu'elle avait su autrefois et avait choisi d'oublier. Elle en était prisonnière. Alors je suis parti chercher cette chose. J'ai fouillé les recoins de son esprit pour trouver ce lieu secret. J'ai forcé l'entrée. Et j'y ai semé une idée. Une petite idée toute simple, capable de tout changer. C'était que son monde était irréel.
Là, c'est littéralement la situation la plus gênante pour Ariane, qui se retrouve au milieu de DiCaprio et Cotillard, où il lui avoue qu'en fait, il l'a poussé à se suicider. Genre, enfin, Ariane, je pense qu'elle a juste envie de sauter du bâtiment.
Mais surtout, en fait, on commence à comprendre qu'il est possible de devenir maboule, en fait, en ne sachant plus si on est dans un rêve ou pas. Et en fait, il y a des gens qui pensent être dans un rêve et qui se suicident en se disant qu'ils vont se réveiller et en fait, bah, meurent vraiment parce qu'ils étaient dans la réalité. Ou alors, inversement, des mecs qui pensent être dans la réalité alors qu'en fait, ils sont dans un rêve.
Ils voulaient vivre ensemble jusqu'à leur mort, et en fait, on réalise qu'ils ont passé des années dans les limbes.
En fait, ils se sont réveillés des limbes, et elle pensait encore être dans un rêve, et elle s'est suicidée, en fait, dans la vraie vie, quoi.
Tout à fait.
Pour s'éjecter des limbes, si j'ai bien compris, en fait, Ariane se jette dans le vide avec Fisher. Mm. Elle se réveille, enfin, dans le niveau précédent, donc dans le niveau James Bond Ski, comme on disait.
Exactement.
Là, l'Inception peut enfin être effective, puisque Fisher accède enfin au testament de son père. Il faut savoir que l'Inception du titre, elle, à la fonctionné.
Ouais.
Fisher s'est mis dans la tête que il fallait qu'il bazarde l'empire de son père
pour laisser Saito contrôler le monde.
Tout le monde arrive à se réveiller en même temps. Là, on a un joli montage qui nous montre que tout le monde se réveille dans le monde d'avant pour enfin accéder au rêve d'avant.
Ouais.
Tout le monde s'en sort, tout le monde se réveille en laissant évidemment DiCaprio dans les limbes où il doit aller chercher Saito. Il s'est débarrassé de sa femme, du fantôme de sa femme. Il s'en va retrouver Saito qui traîne en fait désormais depuis des décennies. Ça fait 90 ans qu'il est dans les limbes.
Et on revient au début.
Et on se dit, waouh.
Je sais pas si vous vous souvenez, mais on avait dit qu'ils étaient au Japon.
En fait, ouais. On était dans les limbes.
On était dans les limbes depuis le début.
À nouveau, c'est le petit plaisir facile des films de Nolan où t'es en mode genre, allez. Parce que là, c'est même pas si j'ai compris ou pas, c'est juste je revois la même scène que j'ai déjà vue. Ouais, il y a un truc de ton cerveau, c'est genre reptilien qui fait genre.
Faut savoir que la première fois qu'on a vu le film avec ma mère, elle pensait que le film allait recommencer. Donc elle avait vraiment rien compris, elle, mais.
Donc DiCaprio retrouve Saito et lui dit oui moi je suis venu te chercher, en fait ça fait 90 ans que tu m'attends dans les limbes, t'as un peu perdu les boules, la boule.
Ouais, ou les boules. Hein.
Ou les boules, il a peut-être perdu ses boules d'ailleurs, on n'en sait rien.
Il a 90 ans.
Et il lui dit voilà, je suis venu te chercher en fait pour qu'on se réveille tous les deux, qu'on redevienne, on retourne dans la vraie vie ensemble.
Et que tu tiennes ta promesse.
Et tu vas me permettre de revoir mes enfants.
Parce que faut savoir que Cobb fait tout ça pour ses enfants, sachant que ça fait longtemps qu'il les a pas vus, il se souvient même pas de la tête qu'ils ont, donc clairement, et des noms, donc
pour mes enfants,
quand il va les revoir, ça va être très gênant, hein. Comment tu t'appelles, toi, déjà?
Le garçon et la...
et la fille.
La fille? Oui, la fille, la fille. Ça aurait foiré l'Inception, là. Il se réveille aux États-Unis, il fait comment, tu sais, genre, il a pas le droit d'accéder au territoire.
Ouais, c'est
genre, il aurait fini en tôle, en fait. C'est un putain de coup de poker, ce film, pour lui.
Le vol dans lequel ils sont arrive aux États-Unis, donc,
Non, mais c'est ça.
Et je sais pas comment tu prends tes billets pour un pays si t'es interdit. Enfin, je pense que directement, moi, je vais sur Air France, je suis interdit de voyage en Thaïlande pour une sombre histoire.
Ouais.
Non, clairement pas.
Après, tu peux y aller sous forme de Tom Hardy, maintenant.
Oui, mais il est interdit dans d'autres pays, donc c'est une longue histoire.
Ouais.
Mais je pense pas que tu puisses juste prendre tes billets comme ça sous ton nom dans le pays dans lequel t'es interdit de.
Sauf si ton copain en fait c'est Saito, qui en fait te promet de pouvoir passer la douane comme tu veux. Et alors je sais pas dans quel état on vit, dans quelle variation des États-Unis, mais apparemment en fait les mecs peuvent se faire sauter des poursuites judiciaires comme ça. Il y a pas de souci.
Faut savoir que le mec lui, il a une boîte dans l'environnement, genre. Voilà.
C'est n'importe quoi.
Genre ouais, je l'imagine. Genre appeler genre le chef de la sécurité de la Maison Blanche, genre
oui bonjour, alors c'est le ministre de l'environnement.
Non en fait, parce qu'il a tué quelqu'un, donc il est pas bienvenu.
Mais
il ressemble beaucoup à DiCaprio et il a envie de voir ses enfants aussi.
Ah ouais, y a pas de soucis, on le laisse passer, hein. Ah bah ouvrez tout, tapis rouge,
y a DiCaprio qui arrive.
Et en fait, on croit pas si bien dire, mais il se réveille, DiCaprio. Il se réveille dans l'avion. Et tout le monde le regarde. Alors, Joseph Gordon-Levitt qui lui jette un regard en mode genre.
On l'a fait, mon gars.
Pas de souci. Ariane, qui en fait a donc enfin réussi à sortir quelqu'un de son labyrinthe. Attention, symbole. Saito se réveille et donc passe son coup de fil magique. DiCaprio arrive à la douane. Et en effet, il n'y a pas trop de problèmes.
Et encore une fois, hein, la musique de Hans Zimmer qui te met bien la pression.
Tout en subtilité.
Tout en subtilité. Même à la douane. C'est, faut savoir que. tu ressors de là, t'as ton pouls.
En fait, c'est pas la musique. C'est pas la musique d'Hans Zimmer, c'est les acouphènes, en fait. Ils ont encore les oreilles bougées. DiCaprio est accueilli aux États-Unis en héros. Il a réussi. Ils ont réussi à inceptionner l'idée. Fisher va enfin démanteler l'empire de son père.
tout le monde a réussi, Saito va devenir le maître du monde, DiCaprio rentre chez lui, il voit ses enfants habillés comme dans ses rêves, mais ça ne le surprend pas, on les voit de dos, les enfants se lèvent, courent vers lui, papa, il les prend dans les bras, on voit enfin leur visage.
D'ailleurs, j'aurais préféré ne pas les voir. Parce qu'ils sont, enfin, ils sont laids au possible.
Et toi, en plus, avec tes affaires en Thaïlande, tu connais la beauté des enfants.
Moi, je sais.
Des enfants comme ça, ça donne pas envie de voyager. Ça donne pas envie de faire un Inception, en tout cas.
Non, clairement, ça donne pas envie d'aller en Thaïlande.
Et d'ailleurs, en fait, j'y pense, mais ils ont fait Sydney, Los Angeles. Du coup, on n'a pas vu le vol où ils vont jusqu'à Sydney.
Mais en fait, ça, c'était une autre Inception.
C'est un autre Inception.
Ils s'occupaient d'un autre Inception dont ils pouvaient pas le montrer. Nolan n'a pas les droit sur cette Inception.
Les enfants se lèvent, courent dans les bras de DiCaprio. Il les prend dans les bras. Ça, il a enfin réussi.
Il a enfin réussi.
Mais il a lancé la toupie et il ne l'a pas regardée. Et là, la toupie tourne.
La toupie tourne.
Et alors là, on va enfin pouvoir avoir l'origine de 8 ans de débat, de la création même, je pense, de Combini. On a créé Combini sur cette question.
Pour répondre à cette question. Et maintenant, t'as des interviews de Bruno Le Maire sur Combini, donc évolué.
Qu'est-ce que dit Bruno Le Maire? Est-ce que la toupie tombe ou la toupie ne tombe pas? Est-ce que DiCaprio est en train de rêver ou DiCaprio ne rêve pas?
Faut savoir que je connais bien Monsieur le Ministre et on en a parlé...
En Thaïlande, en voyage.
Pour lui, la toupie s'arrête.
Alors, il faut savoir aussi que c'est un peu la marque de fabrique de Christopher Nolan, c'est-à-dire de trouver une petite astuce à la fin de son scénario qui va nous faire un peu douter, et puis d'un coup, pam, écran noir, histoire de prendre le générique en pleine gueule.
Il est très très mauvais au montage, faut le savoir, parce que à chaque fois, il coupe trop tôt son film.
C'est ça.
On sait jamais
et
la fin.
Il aurait laissé 3 secondes, c'est très con.
Oui, c'est très bête.
Et en plus,
faut lui dire. Hein.
Donc, on ne sait pas si DiCaprio est en train de rêver ou pas, s'il est resté piégé ou non dans ce monde parallèle. Mais alors là, moi, je me pose en fait une simple question très très con, c'est qu'au pire, il est en train de rêver, il va forcément se réveiller à un moment.
Non, mais surtout, même s'il est dans, s'il est dans un rêve.
Dans tous les cas, il perd pas, et ses enfants, ils sont pas morts, quoi.
Mais surtout, même s'il est dans un rêve, là, dans son rêve, il est avec ses gosses, il est avec son beau-père ou son père, il s'en fout, quoi.
Non, mais c'est ça, il est dans un rêve, c'est pas un problème, il va se réveiller, alors c'est con, hein. Il va se réveiller dans 40 ans, mais à la limite, dans 40 ans, il pourra se dire, bah putain, je peux revivre une vie, je peux revoir mes enfants quand ils étaient jeunes.
Ouais, non, c'est sûr. Mais
parce
après,
que là, il va se taper toute l'adolescence. Il va se taper les problèmes de drogue du petit, parce que.
Bah, il connaît Youssouf maintenant, t'en fais pas qu'il va avoir la.
Youssouf, il connaît les enfants.
Il était en Thaïlande avec moi.
C'est ça. Ah bah. Compliqué pour le pauvre Youssou. C'était donc Inception, enfin tout du moins ce qu'on en a compris. Est-ce que ça t'a plu?
Premièrement, je m'excuse auprès de tous ceux qui nous écoutent qui n'ont littéralement rien compris à ce podcast.
Mais je suis même pas sûr d'avoir compris le film. En fait, pour être tout à fait franc, j'ai levé la main, donc je parle en premier. Pour être tout à fait franc, moi j'avais vu le film en salle quand il était sorti, j'avais adoré. Et là, ça faisait au moins 5-6 ans que je l'avais pas vu. Et en le revoyant, je me suis dit putain, je comprends que dalle au film. Et vraiment, je suis perdu maintenant.
Non, moi, je pense que j'ai un QI plus élevé que le tien, donc je pense que ça a dû m'aider sur la visualisation de ce film. En fait, il faut juste pas se compliquer la vie et il faut juste regarder le film comme un film lambda, quoi. Ils vont dans des rêves et voilà.
Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. J'aimerais me dire qu'il ne faut pas se compliquer la vie, sauf qu'après, ça va être un peu, je pense, le souci des films de Nolan en général, c'est-à-dire que même sur des histoires simples, on peut le dire. On reste franc avec nos auditeurs.
Ouais.
On a vu cet été ensemble, toi et moi, Dunkerque.
Tout à fait.
Qui est peut-être l'histoire la plus simple qu'il ait jamais racontée.
Oui.
Et il n'a pas pu s'empêcher de nous complexifier ça avec 3 niveaux de temporalité, avec l'avion qui va plus vite. Enfin, c'est à chaque fois, t'as envie de dire, mec, fais juste une histoire linéaire et arrête de faire genre c'est malin.
Non,
parce
c'est
que
vrai,
t'as tout mélangé.
Parce que
quoi.
Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film. Il y avait Tom Hardy, donc clairement, j'étais heureux. C'est une histoire qui pourrait être très simple et visuellement, il fait du bon taf, mais il essaie de.
Non, il n'y a pas à dire. Il n'y a pas à dire. Il sait tenir à la caméra.
Il fait du bon taf avec une caméra, faut pas lui retirer ça, mais c'est juste pourquoi tu veux tout complexifier, quoi.
C'est très très compliqué. Et c'est donc la fin de cet épisode. Est-ce que t'as peut-être une petite reco pour finir?
Alors moi, c'est une recommandation qui n'aura littéralement rien à voir avec Inception, parce que ça parle pas de rêve, mais c'est la série de Larry David.
Allez vous faire checker la prostate. Vraiment, c'est très important, les mecs, allez-y.
Non, c'est la série de Larry David, le co-réalisateur de Seinfeld, qui s'appelle Curb Your Enthusiasm. Et pourquoi j'ai pensé à ça? c'est parce que dans chaque épisode, en fait, il nous donne des indices de ce qui va se passer à la fin, et le dénouement est souvent très comique. Et j'imagine que toi aussi, t'as dû préparer une petite recommandation.
Et comme toi, en fait, ça va être une série en dessin animé qui est absolument un putain de chef-d'œuvre. Il s'appelle Rick et Morty. Et Rick et Morty, c'est une série que j'aime plus que toi, en fait, Julien. Et qui n'arrête pas de se moquer d'Inception, en fait. Parce que le personnage de Rick, qui est un savant fou, arrête pas de dire à Morty que c'est pas parce qu'un film est compliqué que c'est un bon film, en fait.
Exactement.
Et il prend toujours l'exemple d'Inception et il arrête pas de lui dire qu'Inception était très mauvais parce que personne n'a rien compris. Et que c'est une excuse pour faire croire que c'est un bon film. Merci à toi, Julien. Dankeschön, Julien, de nous avoir reçus dans ton appartement.
Bah, biteux, hein, comme on dit en Allemagne.
Et on va se changer les idées après ce labyrinthe d'émotions et de complexité. On va peut-être regarder un autre film un peu plus simple, là. Je sais pas si t'as...
Ah bah ouais, j'ai la liste de Schindler en
DVD. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler bande dessinée. Et on parlera du prochain film dans un mois. Cette fois-ci, ce sera nos petites ondes de l'Est qui vont nous pousser à regarder Le Cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein. On va bien se marrer, ça va être très parlant. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre des petits pouces sur iTunes, ça nous aide pas mal. Likez, partagez, en parlez-en autour de vous. Merci à toi, Julien. Merci beaucoup.
Ah,
si
tu m'écoutes, il a dit qu'il était désolé. Et à bientôt. Go, take me dancing tonight. I wanna hit that high. Yeah, yeah. You put the gray skies out of my way. You make the sunshine brighter than darkest day. Turn the bright spark into a flame. Yeah, yeah. My beats per minute never been the same. 'Cause you're my lady, I'm your fool. Makes me crazy when you act so cruel. Come on, baby, let's not fight. We'll go dancing, everything will be alright. Wake me up before you go, go. Don't leave me hanging on like a yo-yo. Wake me up before you go, go. I don't wanna miss it when you hit that high. Wake me up.